Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Nicolas Brousse.
Bienvenue dans Dimanche Politique, le décryptage de l'actualité politique française avec Fabrice Viollet à la réalisation. Nous recevons ce soir Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, président de l'agence de conseil MCBG et auteur d'une bande dessinée Le Président, paru aux éditions Les Arènes. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonsoir.
Cela fait maintenant une dizaine de jours que la France a un Premier ministre, Michel Barnier, mais cela fait plus de deux mois que l'on est sans gouvernement. Michel Barnier, que l'on présente comme un fin négociateur depuis qu'il s'est occupé des conditions du Brexit, va avoir besoin de tout son talent en la matière pour faire son casting. À gauche, c'est Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, qui résume le sentiment général au sein de son camp.
Je ne participerai pas à un gouvernement qui ne respecte pas le vote des Français.
Alors c'est court mais c'est clair, Philippe Moreau-Chevrolet, la gauche ne peut pas rejoindre Michel Barnier, même s'il a mis en avant l'héritage de sa mère chrétienne de gauche.
Oui, la gauche se projette pour les prochaines élections municipales en 2026 et puis pour les présidentielles en 2027. Ce sont des échéances pour lesquelles elle a besoin de rester unie. Ça veut dire qu'elle ne peut pas rompre l'unité du NFP et elle ne peut pas non plus accepter de rentrer dans un nouveau gouvernement macroniste. Et elle est soutenue par 74% des Français pour qui, effectivement, le vote n'a pas été respecté. Alors avec des obédiences, d'obédiences diverses, pas tous de gauche, évidemment.
Alors vous parliez d'un gouvernement macroniste. Justement, Michel Barnier a été nommé par Emmanuel Macron. Alors peut-il compter sur les macronistes? C'est pas si évident.
Je n'ai senti personne dire « on va s'opposer durement ». Je n'ai senti personne non plus dire « on sera d'accord sur tout et donc on sera un soutien absolu et inconditionnel ». On a nos propres sujets, nos propres dadas qu'on va essayer de faire avancer. Et donc le challenge, j'allais dire, des semaines et des mois qui viennent, va être de trouver ce bon équilibre entre la volonté de servir le pays et d'être le plus utile pour qu'il n'y ait pas de situation de blocage et en même temps de faire valoir nos propres positions politiques.
Des propos du ministre démissionnaire chargé du logement, Guillaume Kasbarian, au micro de Valérie Gasse, qui nous confiait qu'hors micro, certains députés Renaissance avaient des mots encore moins sympathiques. Pourtant, il se dit que des ministres démissionnaires pourraient finalement conserver leur fonction. Elle n'est pas très confortable, la position des macronistes.
Non, alors d'une part parce que la dissolution leur a coupé les jambes, ils ont perdu énormément de troupes et puis ça a créé un climat de défiance. Ensuite, il y a la question des ambitions personnelles. Les macronistes sont déchirés entre la tendance Édouard Philippe, la tendance Gabriel Attal, pour certains la tendance Darmanin, qui sont autant de candidats plus ou moins déclarés à l'élection présidentielle. Après, il y a une part quand même peut-être de volonté du camp macroniste de montrer aux Français, attention, ce n'est pas un gouvernement complètement de notre côté. C'est la fameuse histoire de la coexistence dont on a du mal à savoir si c'est une fiction qu'on nous raconte ou si c'est bel et bien une réalité, c'est-à-dire si Michel Barnier, au fond, va s'en sortir avec l'appui de la droite, de Renaissance et du RN, ou s'il va réellement être en difficulté jusque dans son propre camp. Les prochaines semaines permettront d'y voir plus clair.
Et heureusement pour Michel Barnier, son parti LR finalement veut bien participer à un gouvernement, y compris Laurent Wauquiez, chef de file des Républicains. Lors d'une réunion à Annecy cette semaine, il a expliqué pourquoi.
Les Français ne veulent pas que ça continue comme avant. Ils veulent qu'il y ait de la rupture et ils veulent qu'on redresse le pays. Et notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Et ce sera tout le sens de notre implication à ses côtés.
Philippe Moreau-Chevrolet, on entend presque de la gourmandise chez Laurent Wauquiez. Rappelons que LR a eu 47 députés et pourtant donc va se retrouver aux affaires. En tout cas, l'un des leurs est déjà nommé Premier ministre. Est-ce qu'on peut parler, comme certains, notamment à gauche, de hold-up politique ?
Alors, c'est pas complètement un hold-up, puisque c'est pas eux, finalement, c'est pas LR qui a choisi les données de l'équation, mais l'Élysée. Donc, c'est une forme de cadeau, si on veut, mais c'est en tout cas, ils maîtrisent sans maîtriser réellement, parce que, au fond, le président a bien choisi un Premier ministre LR, mais c'est surtout pour la capacité de ce Premier ministre à s'appuyer éventuellement sur le RN et à faire une coalition derrière qui permette à l'Élysée d'appliquer son programme. Ça, c'est l'hypothèse qu'on peut avoir. Donc, est-ce que LR est vraiment dominant pour le moment, en ce moment, mais est-ce qu'il pèsera vraiment au cours des mois à venir ? Beaucoup moins que le RN, ça c'est une certitude.
Et dans l'immédiat, on ne sait pas si le parti peut récupérer, par exemple, tous les postes ministériels.
Non, ça c'est exclu. Après, Michel Barnier a été particulièrement clair sur le fait qu'il y aurait des postes ouverts, mais qu'un certain nombre de postes seraient décidés avec l'Élysée, les postes qu'il appelle régaliens. Donc il est probable que certains ministres, peut-être Dupond-Moretti, peut-être Rachida Dati, garderont leur poste pour que l'Élysée puisse avoir son équation nette. Et puis on donnera à LR probablement des ministères sans doute moins importants, peut-être un gros ministère symbolique, mais ils ont déjà le Premier ministre, donc il est difficile de trop leur donner. Encore une fois, il ne pèse effectivement, vous l'avez dit, que 47 députés, c'est-à-dire virtuellement pas grand-chose.
Et vous parliez du RN, qui lui, au contraire, est le parti qui compte le plus de députés. Écoutez ce que son président Jordan Bardella disait hier à l'occasion de la rentrée parlementaire de son gouvernement.
Rien ne peut désormais se faire sans le Rassemblement national ou contre le Rassemblement national.
Et si le RN ne va pas participer au prochain gouvernement, ils disent tout de même qu'ils ne vont pas le censurer d'office. Louis Alliot, vice-président du mouvement, s'en est expliqué tout à l'heure sur LCI.
C'est parce qu'il est, il est courtois. Enfin, je veux dire, il est simple et il s'adresse à tout le monde. Il respecte tout le monde. La gauche, elle est dans l'invective, elle est dans le sectarisme, elle est dans la violence. Et ce n'est pas la même chose si vous avez un Premier ministre de gauche qui tolère la France insoumise et tout le discours de la France insoumise, et d'avoir un ministre qui n'est pas de nos idées, mais qui respecte les dirigeants de notre formation politique et nos électeurs. C'est une différence de taille. Donc ça ne se jouera pas sur les hommes, ça se jouera sur les idées.
Bon.
Et sur les idées, on verra bien ce que propose M. Barnier.
Philippe Moreau-Chevrolet, le Rassemblement national, là on l'entend, se veut dans l'opposition constructive. Est-ce que c'est audible par leurs électeurs ?
Non, ça n'est pas audible par leurs électeurs qui attendent une rupture et une alternance. Donc là, c'est un peu le piège dans lequel Emmanuel Macron excelle à conduire ses adversaires, c'est-à-dire dans une forme de collaboration ou de compromis, on va dire, mais qui se traduit en fait par, au final, un seul gagnant qui est le président de la République. Là, c'est assez remarquable ce qu'il fait avec le RN parce qu'effectivement, il l'attire vers lui. Il risque d'en éloigner ses propres électeurs. Après, il faut voir, et ça c'est un vrai point d'interrogation, comment ça va se traduire dans la politique du pays. C'est-à-dire, est-ce que ça va conduire, comme en Italie par exemple, à avoir une politique dure à l'égard des immigrés ou bien des minorités sexuelles, puisqu'on sait que Meloni a beaucoup discriminé finalement ces deux catégories dans ses mesures. Donc la question c'est, est-ce que ça va se traduire politiquement ou est-ce qu'on va rester dans de l'affichage ? Et jusqu'où finalement le RN est flexible dans son soutien ? Est-ce que par exemple ils vont ou pas voter l'abrogation de la loi sur les retraites que la gauche pourrait appuyer ? Ou est-ce qu'ils vont se retenir de faire ça ? Est-ce qu'ils pourraient censurer le gouvernement à un moment donné pour pouvoir récupérer une forme de crédibilité, c'est toute la question.
Est-ce que c'est pour ça que Marine Le Pen, certains disent que c'est grâce à elle si Michel Barnier a pu être nommé. Est-ce que Marine Le Pen pense déjà à une nouvelle dissolution l'année prochaine ? Elle l'a déclaré cette semaine. Pour elle, le gouvernement, elle l'annonce déjà, ne va pas tenir plus de quelques mois.
Alors, il y a deux hypothèses qui sont dans l'esprit d'absolument tous les hommes politiques français. La première, c'est que le président ne pourra pas tenir et sera lui-même à un moment donné démissionnaire. C'est pour ça que Édouard Philippe s'est déclaré candidat aussitôt. C'est pour ça aussi que Gabriel Attal veut prendre le contrôle du Parlement, du groupe parlementaire et qu'il essaie de prendre le contrôle du mouvement politique avec l'argent qui va avec pour faire campagne. Donc tout ça, on voit bien que c'est la première attente. Puis la deuxième attente, c'est une dissolution nouvelle dans quelques mois pour que on puisse éventuellement avoir une majorité. Mais c'est une illusion totale étant donné l'état des rapports de force dans le pays.
Et avant une dissolution, il faudrait déjà une composition. À l'écoute des sons que nous venons de passer, on comprend que Michel Barnier prenne son temps pour composer son gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas loin de la mission impossible pour trouver des gens qui voudront participer hors de son parti LR ? Quand on entend le RN qui dit « oui, on est dans l'opposition constructive », les macronistes qui ne sont pas plus chauds que ça, la gauche qui dit carrément non ?
Il y a toujours des candidats pour devenir ministre. Ça, c'est une vérité éternelle en politique. Donc, on n'est pas très inquiet sur le fait qu'ils trouvent des candidats. Après, c'est plus le poids politique de ces candidats. Est-ce que, par exemple, et puis le degré de flexibilité de Michel Barnier lui-même, est-ce que, par exemple, la main tendue peut s'étendre à Ciotti ? Est-ce que Laurent Wauquiez, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir en ce moment pourrait être ministre. Est-ce que voilà. Après, il y a des questions aussi de se projeter dans la durée, la capacité à se projeter dans la durée avec un gouvernement. Il faut quand même que tout ça fonctionne ensemble. Il faut quand même que voilà, il n'y ait pas trop d'affaires. Il faut quand même que ce soit viable. Donc c'est une question à la fois d'individu puis de collectif.
On passe au dossier, sinon aux défis qui attendent la prochaine équipe gouvernementale, quelle qu'elle soit, l'immigration. Y aura-t-il ou pas un ministère de l'immigration, ce qui serait sans doute apprécié par le RN? Michel Barnier a bien mis le sujet sur sa liste de priorités, mais de là à annoncer le ministère?
J'annoncerai l'architecture du gouvernement au moment où vous formerez le gouvernement, vous verrez. On va traiter cette question.
Vous cherchez des personnes?
On va la traiter. Ne parlez pas trop vite. On va traiter cette question grave, sérieuse, avec de la rigueur, avec de la ténacité, avec le souci de maîtriser l'immigration. On le fera aussi avec humanité.
On entend Michel Barnier un chouïa agacé. C'est clair qu'il est très attendu au tournant par le RN sur ce thème.
Oui, et pas que par le RN, par LR aussi, qui s'est aligné avec le RN sur cette thématique. L'immigration, c'est un peu la caractéristique des présidents en difficulté. On a vu à la fois Nicolas Sarkozy devenir dur en fin de mandat là-dessus. On a vu François Hollande aussi parler, souvenez-vous, de déchéance de nationalité, donc devenir dur là-dessus également en fin de mandat. C'est une forme de constante, ça se traduit rarement par des mesures. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce que veut le RN est tellement extrême et tellement dur que c'est inapplicable par un gouvernement démocratique. En tout cas, ça l'était jusqu'à présent. Donc la préférence nationale, par exemple, on l'imagine difficilement se mettre en place. Donc on verra s'il met en œuvre ce volet de législation. Sur l'affichage, on a déjà eu des ministères de l'identité nationale sous Nicolas Sarkozy.
Avec Éric Besson.
On pourrait imaginer voilà, un retour. Pardon ?
Avec Éric Besson qui était le ministre.
Avec Éric Besson, absolument, qui était une prise de guerre pour le coup dont rêverait probablement Emmanuel Macron aujourd'hui, qui était le monsieur économie, je crois, à l'époque du Parti Socialiste, un proche de la direction du PS, de Ségolène Royal, et qui l'avait pris finalement comme une prise de guerre pour le mettre dans un ministère qui était plutôt qualifié ou compris comme étant d'extrême droite. Donc ça, c'était une forme de triangulation. À l'époque, on appelait ça comme ça. Aujourd'hui, on appellera ça du en même temps. Voilà, c'était un petit peu les préambules de ce qu'on vit aujourd'hui.
Autre dossier chaud que vous avez déjà un peu évoqué, Philippe Moreau-Chevreau, les professeurs de communication politique à Sciences Po, la réforme des retraites que veulent détricoter et le RN et le NFP, sauf que selon le calendrier parlementaire, c'est le Rassemblement national qui sera le premier à pouvoir le proposer. Et quand tout à l'heure France 3 demande à Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, si elle appuiera une proposition de loi de l'extrême droite, elle est bien embêtée.
Au Nouveau Front Populaire, nous nous sommes réunis avec les quatre groupes du Nouveau Front Populaire pour trouver tous les moyens les plus rapides pour abroger cette réforme de la retraite. Donc après, si la première occasion se trouve dans la niche du RN, avec une arnaque totale du Rassemblement National, eh bien, je vous dirai quelle sera notre position.
Mais pour l'instant, notre position... Mais pourquoi elle n'est pas tranchée ?
Mais parce que notre position, c'est que nous voulons, nous qui avons porté, aux côtés des syndicats, des associations, des collectifs, nous qui avons porté cette abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, très clairement dans notre programme, contrairement au Rassemblement National, eh bien, nous voulons, nous, gagner cette bataille.
Donc, on parlait de piège tendu par Emmanuel Macron au Rassemblement national. Est-ce que là, ça n'est pas le piège parfait tendu par le RN au Nouveau Front Populaire ?
Oui, alors après, la question, c'est de savoir s'ils vont le faire vraiment au RN, parce qu'il y a une forme d'entente avec le gouvernement. Et là, pour le coup, s'ils votent ça, ça peut... D'un côté, ça leur permet au RN d'afficher une vraie indépendance tout en étant dans le soutien. Donc, ça crédibilise et ça renforce leur position. D'un autre côté, ce serait quand même un camouflet gigantesque pour le président de la République et l'une des mesures phares de son quinquennat qui serait tout bonnement annulée. Dans le même temps, on ne voit pas comment LFI pourrait ne pas voter cette abrogation. On verra, mais si l'abrogation de la loi retraite est votée, on entre pour le coup dans un cycle qui va être très difficile à manœuvrer pour Michel Barnier, parce qu'on voit mal comment une motion de censure ne serait pas votée dans la foulée ou très peu de temps après. Donc, c'est aussi pour ça que les acteurs politiques estiment que le gouvernement Barnier n'a pas très longtemps à vivre. Il y a beaucoup, beaucoup de courants contraires. Il est déjà donné mort avant d'être né, ce gouvernement, en réalité.
François Ruffin sort un nouveau livre, « Ma France en entier, pas à moitié », dans lequel il assure que chez LFI, on fait du démarchage politique au faciès. La France insoumise miserait sa stratégie électorale sur les populations racisées des quartiers au détriment des populations des campagnes. Écoutez-le sur BFM TV, c'était jeudi matin.
Je pense que c'est l'honneur
de la gauche. C'est son devoir de devoir parler aux classes populaires en entier et pas à moitié, et de vouloir faire France ensemble. Là, il y a un choix qui depuis 2 ans nous sépare avec la direction des Insoumis, qui a un choix de se dire est-ce qu'on parle au pays en entier ou est-ce qu'on parle au pays à moitié.
Un clash qui a fait réagir Fabien Roussel du Parti communiste. Il n'est pas surpris, mais il n'est pas content, interrogé en pleine fête de l'humanité par Aurélien Devernois.
Vous savez, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, je l'ai passablement commenté. François le dit maintenant, tant mieux. Mais tout est fait pour nous opposer, tout est fait pour nous diviser. Donc je dis halte au feu et faisons tout pour être rassemblés.
Fabien Roussel donc à la fête de l'humanité où François Ruffin s'est fait huer hier, Philippe Morochevollet. L'ambiance n'est pas très bonne non plus au sein des défis.
Oui, j'ai participé moi-même à un débat à la fête de l'humanité sur l'art français du compromis est-il perdu. Donc c'est une thématique d'actualité.
Totalement.
Et à passer dans les travées de la fête de l'humanité, c'était loin d'être évident. Ce que dit Ruffin est à peu près ce que disait autrefois une branche du PS par rapport à l'autre, en reprochant finalement au PS d'être allé vers des politiques identitaires, vers des thématiques sociétales, plutôt que de s'adresser aux ouvriers. François Ruffin reprend le même argument qui avait divisé le PS autrefois. Et ce que lui reproche Fabien Roussel, c'est de mettre une entaille dans le NFP, donc c'est de mettre en danger tout ce qui est en train d'être construit par la gauche. Donc c'est pas facile à gérer pour François Ruffin. Et ça s'est traduit pendant la fête de l'humanité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Lui-même a été sifflé, mais les tensions étaient un peu partout. Et puis, il y avait quand même cette vérité que François Ruffin énonce, c'est-à-dire que partout sur les stands, il y avait des drapeaux palestiniens et des thématiques sur Gaza. C'est très intéressant et c'est sans doute très légitime comme thématique pour les filles, mais ça ne peut pas tenir lieu de discours social ou de discours dominant pour le reste du pays.
Et d'ailleurs, François Hollande, ancien président, devenu député socialiste, était lui aujourd'hui dans le calme du studio de LCI et il n'a pas franchement joué l'apaisement.
François Ruffin dit de l'intérieur, puisqu'il est partie prenante de LFI, ce que nous disons depuis longtemps de l'extérieur, c'est-à-dire une dérive sectaire, brutale, communautariste et surtout une stratégie minoritaire de la part de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Alors mieux vaut tard que jamais, mais d'une certaine façon, ça contribue à la clarification.
Et malgré ces critiques, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe, lui aussi invité bien sûr de la fête de l'UMA. Il assume de concentrer les efforts des LFI sur les quartiers populaires.
Si les quartiers, si les plus pauvres avaient voté comme le reste du pays, alors à cette heure, nous aurions la majorité absolue.
Voilà, de l'ambiance évidemment à la fête de l'UMA, Philippe Morochevollet, l'unité au sein du nouveau Front Populaire. Est-ce que ça paraît de plus en plus une vue de l'esprit après ce week-end?
Non, ça tient malgré tout, parce que ce que fait Fabien Roussel, c'est de renvoyer dos à dos Ruffin et Mélenchon en expliquant que lui n'arbitrera pas. Après, François Hollande, sa position est connue, il est contre le NFP, contre toute forme d'alliance avec LFI, principalement parce qu'il veut garder le contrôle de son camp. Il y a toute une branche qui sont les Hollandais d'ailleurs, comme Stéphane Le Foll ou d'autres qui vont dans ce sens-là. L'unité, elle tient, mais je vais vous dire tout simplement parce qu'il y a 2 échéances électorales, 2026 et 2027. Municipale présidentielle, si la gauche n'est pas unie, eh bien personne ne gagnera à gauche. Donc c'est la réalité, c'est que chacun est obligé de se supporter et chacun est obligé finalement de supporter les vérités de l'autre. Et la vérité de Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement qu'il fait un vote, d'ailleurs lui-même le dit en privé, sur une base communautaire. Il y a des quartiers où sur cette base-là, il fait 85-86% des voix aux élections législatives quand même, Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'a pas envie de lâcher la proie pour l'ombre, finalement.
Mais est-ce que François Ruffin, qui à un moment était presque adoubé par Jean-Luc Mélenchon, devient, après cette sortie, l'ennemi public numéro un ?
Non, il devient un espoir, finalement, de la gauche, comme l'est Raphaël Glucksmann. Alors, ce sont des espoirs fragiles, mais quelque part, eux incarnent une voix qui permettrait, éventuellement, une fois la chaleur du combat passée, d'esquisser une gauche de gouvernement, engagée, mais pas avec les travers de LFI, pas avec tout ce qu'on reproche à LFI finalement, pas avec la stratégie forcément minoritaire d'après François Ruffin de Jean-Luc Mélenchon,
et
en se basant sur les problématiques nationales.
Et ce sera le mot de la fin. Merci mille fois Philippe Morochevollet, professeur de communication politique à Sciences Po. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce dimanche.